Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour, la réforme de l'assurance chômage, les choses se précisent. Il y aura bien une baisse de la durée d'indemnisation dans la mesure où le taux de chômage tomberait à 6,5%. À ce moment-là, la durée baisserait de 40%. Et par décret, le 1er juillet, il faudra donc avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour être indemnisé. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Gain espéré 3,6 milliards par an pour le gouvernement et 90 000 emplois supplémentaires. Est-ce que tout ça est vraiment crédible? On regardera la photographie de qui paye l'impôt sur le revenu qui a été actualisée par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Une minorité paye trois quarts de la recette. Au-delà de 2740 euros par mois de revenus fiscal de référence pour un célibataire sans enfant, eh bien on paye 76% de la facture totale de l'IR. Ça veut dire que ces gens, qui sont à peu près les 10% les plus riches, versent tous les ans 62 milliards d'euros sur les 82 milliards d'euros que rapporte l'impôt sur le revenu. Moi, je dis que cet impôt coche toutes les cases du mauvais impôt. On va en débattre. On dirait un mot du fléau de l'absentéisme. C'est vraiment devenu la nouvelle maladie professionnelle. Bon, après, d'autres sujets, je ne vais pas en vendre trop avant parce que sinon, on n'a pas le temps. Et voilà. Généralement, quand on fait un sommaire, on va jusqu'au bout du sommaire. C'est parti. J'ai fait des progrès, hein, généralement. Autrefois,
il faut allonger la durée d'émission, Nicolas.
C'est ça. Non, mais j'ai dit qu'on pourrait faire la semaine en 4 jours. Je fais 1h15 d'émission par jour au lieu d'une heure et on fait 4 jours. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
PDG de Micropole. Et Juan Tison, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Directeur des études de l'Institut Sapiens, chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Et vous avez coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le véhicule, le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Tiens, Agnès Michel était avec nous cette semaine. Elle prépare un bouquin sur la fin de la voiture individuelle. Ça va faire causer. Elle avait à peine prononcé le mot que mon compte Twitter explosait et tous les gens qui ne pouvaient pas se passer de leur voiture m'expliquaient pourquoi ils ne pouvaient pas s'en passer.
Mais c'est un vrai débat qui a été soulevé. Juste un petit chiffre. Le coût d'utilisation horaire d'une voiture individuelle, c'est 28 euros. Quand vous rapportez en fait le taux d'utilisation qui est à peu près 3% par jour par rapport à ce que ça vous coûte par mois, entre l'amortissement, l'investissement, l'assurance, etc., on est entre 25 et 28 euros par heure d'utilisation.
Donc, si jamais on a 3 SMIC, hein.
Ben, si on arrive à développer une solution effectivement de transport collectif ou à la demande, comme avec les transports autonomes, à moins cher que 28 euros, on créera une incitation économique pour les agents rationnels.
C'est pas mal de regarder le coût horaire de l'utilisation d'une voiture.
C'est le véhicule autonome de catégorie 5 qui sera la vraie réponse, mais c'est pas
catégorie 5. C'est quoi déjà catégorie 5?
C'est lui qui se déplace tout seul, qui retourne à son point de départ et qui optimise les choses tard, mais c'est pas tout de suite.
Je suis pas un pro du sujet, mais intuitivement j'ai l'impression que soit tous les véhicules sont autonomes, soit ça fonctionnera pas.
Non.
Vous voyez qu'on va pouvoir commencer avec quelques-uns.
Oui, bien sûr.
Alors, il y a un problème, il y a une dimension générationnelle.
C'est Philippe Trénard qu'on entend à l'instant, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Bon, on ne fait pas le véhicule autonome aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Alors, je tiens à préciser que, depuis que j'ai lu quelques courriers, que j'ai reçu des mails, alors j'en reçois tous les jours maintenant, des mails fleuves. J'ai reçu un mail de Maxime qui me parle de notre relation justement au monde du travail. On parlera de l'absentéisme. Puis alors, tout le monde me propose ses pistes de réforme pour l'assurance chômage, notamment, comment s'appelle-t-il, Guillaume, qui m'a écrit. Je les lis, vos mails. J'essaierai de les aider, de les inclure dans l'actualité lorsqu'elles se présentent. Assurance chômage, la durée d'indemnisation baissera bien de 40%, mais si on tombe à 6,5% de chômage, donc un point de moins qu'aujourd'hui, et le 1er juillet, par décret, il faudra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour être indemnisé, 3,6 milliards d'économies espérées, 90 000 emplois supplémentaires. Est-ce que vous soutenez, Christian Poyot, la réforme de l'assurance chômage? Patrick Martin du MEDEF, il y a 48 heures, a pris la défense du projet.
Ben oui, évidemment. Alors, toujours intéressant de rappeler, on l'a dit certainement plusieurs fois à cette antenne, que le problème principal de la France, c'est que collectivement, on ne travaille pas assez. Entre l'âge où on démarre le travail, encore une fois, il y a bien sûr des différences dans certains corps de métier, et puis l'âge de la retraite, et puis la durée de travail globale, etc. Les calculs ont été faits une fois. Si les Français, globalement, travaillaient au même nombre d'heures que les Allemands ou d'autres, nos problèmes de déficit, je crois, seraient... Oui. Régler instantanément.
Si le taux d'emploi était similaire, on aurait plus de 100 milliards.
Oui, c'est le genre de choses. Alors, c'est bien, ça fait un peu, on radote, mais c'est toujours bien de le rappeler. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, sur le fait de dire comment travailler plus, il y a effectivement un des sujets qui est le sujet de l'assurance chômage. Ben là, et encore une fois, regardons ce que font les autres. Donc, alors, il y a des différences sur ce que propose le gouvernement ou ce que va proposer le gouvernement, et peut-être pas exactement ce qui est fait dans d'autres pays, mais en tout cas, ça tend vers ça, encore une fois. Donc, le propos de Patrick Martin était simplement de dire, ben, regardons ce que font les autres. Visiblement, ça marche pas trop mal. Donc, oui, il faut aller dans ce sens-là. Alors, toujours pareil, sur les chômeurs, il y a le cas soit des gens qui sont de totale bonne foi, qui cherchent du boulot, c'est très compliqué, etc. Et eux, il faut continuer à les aider. Mais il y a aussi des effets d'aubaine. J'entends dire, il y a peut-être des effets d'aubaine. Non, il y a des effets d'aubaine. Il ne faut pas se raconter de bêtises, c'est clair et net. Voilà. Donc oui, il faut soutenir la réforme. Il faut aller dans ce sens-là, pas tant pour les économies, si je veux dire, de l'assurance chômage, mais pour dire, ben, on va collectivement produire plus, et donc c'est de la richesse nationale qui va être profitable à tout le monde.
Les opposants à la réforme vous disent, aujourd'hui il y a des excédents, ça va pénaliser les personnes les plus difficiles à insérer, et puis, a priori, on ne fait pas une réforme, on ne durcit pas un système quand le marché se dégrade, ce qui est un peu le cas du marché de l'emploi.
Ouais, enfin, le marché français n'est pas non plus dans une situation catastrophique aujourd'hui. On est venu d'être en pire. Hein, voilà.
Vos avis, Philippe Trénard et Juan Tizon, oui, sur... De toute façon, on y va à la réforme. Que les partenaires sociaux soient d'accord ou pas, on les consulte pour la forme, on le sait bien.
Hein. Moi, je crois qu'il faut aller dans ce sens. Je rejoins ce que dit Christian.
Vous dites qu'il faut réformer.
Oui, il faut réformer. Bon. Je crois l'augmentation de la durée de travail, le passage de 6 à 8 mois, est une bonne réforme. C'est quelque chose de différent de celle de la baisse de la durée d'indemnisation.
Il y a aussi là, une idée... Là, on retarde l'entrée dans l'indemnisation.
Il y a aussi une idée de mettre fin à une pratique. Enfin, je pense que chacun d'entre nous, quand il regarde autour de lui, voit cette pratique, c'est-à-dire de gens qui font des allers-retours entre le marché du travail et qui bâtissent leur carrière là-dessus. Bon, c'est plus de l'assurance, là, c'est quand même un problème d'aléa moral, comme diraient les assureurs, sur l'assurance. Donc, je crois qu'il est légitime. Il faut avoir travaillé avant de bénéficier, et il faut renforcer les conditions. Et on peut pas dire aujourd'hui que le marché du travail se dégrade. En mars, le taux de chômage a continué à baisser. Nous sommes à 7,3%, ce qui, pour la France...
On est à 7,3.
À 7,3, oui. On est passé de 7,4 à 7,3. On est sur les niveaux les plus bas historiquement que nous ayons connus. Mais on voit bien qu'il y a une réticence, et cette réticence, elle est structurelle, c'est parce que notre système est pas bien adapté. Je trouve que la deuxième idée, c'est-à-dire si le chômage tombe, on baisse encore la durée d'indemnisation. Oui, parce que la durée d'indemnisation est l'un des facteurs déterminant de la durée du chômage. On s'aperçoit, et ça, toutes les études internationales de l'OCDE, du FMI, le répètent depuis 20 ans, n'est-ce pas ? Il faut que nous baissions pour nous mettre vraiment dans la moyenne des pays avancés. Nous n'y sommes pas encore, nous approchons. Il y a eu beaucoup de réformes dans ce sens, et qui ont été faites d'ailleurs par les gouvernements d'Emmanuel Macron. Il faut le saluer, c'est un domaine où il a eu un certain succès, et je crois qu'il faut poursuivre dans cette direction, parce que la pratique, en réalité, et on le voit bien, le comportement qui est derrière, c'est-à-dire la fin de l'indemnisation sonne aussi le moment où il faut absolument avoir trouvé un travail. On s'aperçoit d'ailleurs que quand on fait des comparaisons internationales, avec des durées d'indemnisation plus faibles ou plus fortes, on aboutit toujours à la même décote quand le chômeur, qui est de l'ordre de 20 à 25% quand le chômeur reprend un travail.
Stéphane Carcillo, spécialiste du sujet, nous a bien décrit les effets de comportement et les effets d'horizon, effectivement, qui sont tout à fait normaux et tout à fait
rationnels,
cohérents et rationnels. Voilà. Et notamment, il expliquait que lorsqu'on avait passé de 4 à 6 mois le temps pendant lequel il faut avoir travaillé pour être indemnisé, eh bien, on avait vu que les contrats de travail avaient eu tendance à s'adapter assez vite à ces nouvelles donnes, et donc probablement qu'ils s'adapteront à la nouvelle donne des 8 mois. Même position, Erwan, si vous avez un truc à ajouter, parce que si on a tout dit...
Un peu plus nuancé.
Trois
petites réflexions, si vous permettez. Premièrement, dans le cas d'une assurance, si mes conditions d'indemnisation baissent, normalement, ma police doit baisser aussi.
C'est un peu ce que je me disais.
Les cotisations devraient normalement légèrement baisser.
C'est pas prévu.
Bah, je sais, parce que c'est le but officiel de le but officieux de cette réforme, c'est faire des économies. C'est pas du tout aller vers le plein emploi. Je pense que, objectivement, le gouvernement a abandonné l'objectif de 5% de taux de chômage d'ici 2022, parce qu'il s'est rendu
2027.
Mais je pense qu'il s'est rendu compte que c'était effectivement trop compliqué à atteindre, et donc du coup on va plutôt aller vers un autre objectif politique qui est celui des 3%. Coûte que coûte, quitte à casser quelques dépenses structurelles qui peuvent amputer notre croissance à venir. Donc premièrement, on est là pour faire des économies. Alors les économies, on peut les nuancer. On parle de 40 000 euros par emploi. Je trouve que c'est quand même beaucoup en termes d'économie. Hein, quand on veut mettre 80 000 personnes pour économiser 44 milliards.
Je ne sais pas comment on peut prévoir 90 000 emplois en plus.
Pourquoi pas 95, pourquoi pas 85.
Oui, je suis un peu sûr.
Le deuxième chose qui me manque, moi, dans cette réforme, et j'ai déjà pu le prononcer ici, c'est le côté réellement insertion qui est par la formation. Le taux de chômage français est un taux de chômage qui se singularise par rapport aux autres taux de chômage européens par sa forte dichotomie entre les non qualifiés et les fort qualifiés, enfin, très fort qualifiés, très haut qualifiés. Le taux de chômage des bac plus 5 est environ à 3% dans notre pays et le taux de chômage des bac moins 1, moins 2, moins 3 est environ entre 17 et 19%. Donc on voit bien qu'en fait il y a plusieurs taux de chômage, il y a plusieurs types de chômeurs qui existent. Or, en se concentrant exclusivement sur des incitations type d'allocation, en tout cas type d'indemnisation, déjà on touche que la moitié des demandeurs d'emploi, hein, parce qu'il y a la moitié des demandeurs d'emploi qui ne touchent rien, donc qui ne seront pas du tout dans cette incitation-là.
Il y a 47% qui ne sont pas indemnisés.
Exactement.
À peu près.
Exactement. Non, 47% qui sont indemnisés. Et le problème, je pense, c'est qu'on perd de vue l'objectif d'appariement nécessaire, qui est de dire il faut qu'on opère une montée du capital humain, il faut qu'on forme la plupart des demandeurs d'emploi qui n'ont pas eu le grand drame de la France, hein, c'est ce fameux culte du diplôme. À 20 ans, votre destin professionnel est figé. Il faudrait qu'on arrive à casser ça en disant.
Oui, c'est un travail de longue haleine.
Oui, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui avait commencé par la loi Pénicaud, qui était. Il y avait dans ce que le candidat Macron en 2017 avait annoncé, c'est-à-dire trois piliers, c'est-à-dire la liberté de choisir son avenir professionnel par la possibilité de suivre une formation pour casser justement le monopole et la rente du diplôme initial, plus après l'idée de pouvoir démissionner tout au long de sa carrière pour changer de branche et d'emploi, plus l'idée de prendre sa retraite quand on le veut par une réforme à points, il y avait l'idée de dire l'actif pilote lui-même sa propre carrière. Cette ambition-là, il n'est pas encore trop tard pour aller la chercher. Une proposition très simple que l'on a déjà fait ici, je reformule très rapidement, on supprime l'assurance chômage au-delà de 3 mois, on la fusionne avec la formation professionnelle, c'est-à-dire que vous avez 3 mois de recherche individuel, vous pouvez choisir pendant 3 mois le secteur où vous voulez aller. Au bout de 3 mois, si vous n'avez pas trouvé, vous basculez automatiquement dans une formation. Soit pilotée par France Travail localement qui va vous dire, bah tiens, la restauration cherche dans votre coin, bah, on va vous former là-dessus. Soit parce que vous avez un vrai projet de carrière et dans ces cas-là, vous êtes pris en charge. Ça permettrait de faire des économies d'échelle assez importantes. On fusionne en plus 2 fonds qui permettraient de faire pas mal d'économies structure. Ça nous permettrait d'augmenter l'allocation chômage, hein, donc de passer par exemple de 55% à 80%, comme le font d'autres pays nordiques, pour éviter le décrochage en termes de pouvoir d'achat lié à l'inactivité. Et ça permettrait surtout de mettre tout le monde en formation et d'éviter d'avoir des gens qui se retrouvent pendant presque 2 ans sans aucun suivi et sans aucune personne au bout du fil pour pouvoir les mettre dans un programme d'insertion.
Ambitieux. Philippe Trédard, après on passe.
Ambitieux, mais je réagis à mettre tout le monde en formation. Non, je ne crois pas que la formation professionnelle soit la solution au chômage. Ça, c'est un enseignant qui parle. La formation professionnelle n'est une solution que pour certaines personnes. Je crois qu'il faut être plus large. Et je pense que notre ami a raison d'insister sur ce point. Il faut un accompagnement. Il faut plus d'accompagnement des chômeurs. Accompagnement d'abord dans la recherche d'emploi et éventuellement déterminer s'il y a un besoin de formation professionnelle. Pour avoir un besoin de formation professionnelle, il faut que la personne soit apte à recevoir une formation professionnelle, et notamment celle que l'on a en vue, et deuxièmement, que ce soit pour un secteur où il y a des besoins. Mmh. Or, aujourd'hui, justement, on s'aperçoit que quand même, les performances de la formation professionnelle laissent à désirer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des domaines très performants, mais je crois que le premier acte, c'est plutôt de ne pas laisser le chômeur seul et de l'accompagner.
Tout le monde le dit, hein, qu'on a un défaut d'accompagnement. J'ai pas mal d'auditeurs qui considèrent que si effectivement on resserre un petit peu les droits, il faut baisser la cotisation qui finance ces droits.
Pour le moment, il s'agit d'équilibrer sur le cycle l'assurance chômage. On n'est pas encore de gagner de l'argent et d'accumuler des excédents dans le temps. Donc je pense que la baisse des cotisations arrivera un peu tôt. C'est juste permettre à l'assurance chômage.
Il y aura pas vivre. Il n'y aura pas de baisse de cotisation. Après, il y a aussi une critique régulièrement formulée que je trouve juste. On demande à l'assurance chômage de financer en partie Pôle emploi, ce qui n'est pas a priori son objet. Oui, et on demande à l'assurance chômage de financer le régime très particulier des intermittents du spectacle, qui est un choix politique culturel et qui ne devrait pas dépendre de l'assurance chômage.
C'est de la solidarité.
Juste un tout petit peu les intermittents du spectacle, je pense qu'on sera tout d'accord, mais France Travail, en quoi ça serait choquant si on a créé une matrice justement qui vise à lutter un maximum contre le chômage par l'accompagnement. Avant la création de France Travail, vous savez combien de temps il fallait pour qu'un allocataire du RSA, entre son inscription et son premier rendez-vous, s'écoule ? Il y avait plus de 3 mois en moyenne. trois mois quand vous êtes en inactivité au RSA, c'est foutu. Enfin, c'est terminé. Vous perdez en motivation, vous perdez en compétences, etc. Moi, je trouve pas ça choquant vu les immenses besoins qu'on a en financement de France Travail, parce qu'on va quand même, France Travail va quand même par rapport à Pôle Emploi gérer 1,5 million de personnes en plus. Hein.
Il va y avoir un phénomène de
en ingénierie, c'est énorme. Moi, ça me choquerait pas que certains excédents de l'assurance chômage, dans la mesure où c'est un outil pour lutter contre le chômage, servent à financer France Travail.
Moi, question pour un complément. Ouais. France Travail, je pense, c'est une bonne initiative qui vise à rationaliser l'ensemble des aides qui étaient.
Oui, il y a un côté guichet unique, recherche d'efficacité.
C'est faisable d'ailleurs, parce qu'il y a une notion de data unique pour chaque personne en recherche d'emploi. Après, je voudrais juste revenir sur les 5%. Ok, c'est vrai que peut-être le gouvernement met plus ça en avant parce qu'il y a le déficit qui est peut-être prioritaire, etc. Mais enfin, qu'il le mette ou non, c'est bien l'objectif qu'il faut garder. Encore une fois, on reste sur le fait que...
Les 5% de chômage.
Bah oui,
oui, il faut garder l'objectif.
C'est un point majeur qui crée des problèmes de la France. Quoi.
Je regarderai tout à l'heure vos réactions à la pause. La photographie de ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. Moins de la moitié des ménages payent l'IR, 18,2 millions de foyers sur 41 millions de foyers. En moyenne, ceux qui payent l'impôt sur le revenu payent 4 663 euros. De moins en moins de foyers le payent. On est à 45% des foyers aujourd'hui, c'était 52% en 2013. Entre-temps, François Hollande a supprimé la première tranche de l'impôt sur le revenu en 2014 et Emmanuel Macron a baissé la nouvelle première tranche en 2020 de 14 à 11%. Et surtout, une toute petite minorité paye à elle seule trois quarts de la facture, c'est-à-dire les contribuables qui dépassent 2 740 euros par mois de revenu fiscal de référence, ce qui correspond à un célibataire sans enfant. Ils acquittent, ces contribuables-là, 76% de la facture totale d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire 62 milliards de recettes sur un total de 82 milliards d'euros de recettes. Et pour eux, le montant moyen n'est pas de 4 663 euros, mais de 15 310 euros. Et si on prend le 1% au sommet, tout en haut, les plus riches, eux, leur facture moyenne d'impôt annuelle est de 68 000 euros. Moi, je dis, quand je vois ça, que l'impôt sur le revenu, il coche les cases du mauvais impôt. Il rapporte moins de 4% du PIB, c'est quasiment 10% dans les autres pays. Il est payé par de moins en moins de gens, et ceux qui le payent, payent beaucoup et le vivent de plus en plus mal. Est-ce que vous partagez mon avis sur le fait que ce n'est pas un bon impôt, et qu'on a un autre impôt sur le revenu qui fonctionne très bien, qui s'appelle la CSG?
Oui, oui.
Philippe Trénard.
Oui, non, je crois qu'il faut, quand on parle d'impôt sur le revenu, c'est vrai qu'il faut avoir dans sa tête la fusion intellectuelle. Je ne sais pas en pratique, mais au moins la fusion intellectuelle entre la CSG et l'IR.
Posé la question à un moment.
Absolument, puisque j'ai été parmi les concepteurs de la CSG dans les années, à la fin des années 80, quand j'étais au milieu fonctionnaire au ministère.
Vous êtes un sado fiscaliste.
Voilà. Et on avait l'idée, il y avait eu un débat, et d'ailleurs à l'époque, on avait décidé de séparer pour bien orienter la CSG vers les questions sociales, que la CSG n'aille pas financer la défense,
etc. C'est la contribution sociale généralisée.
Contribution sociale généralisée.
Ça rentre dans les dépenses sociales.
Je crois que ce que signalent les chiffres, qui n'ont rien d'exceptionnel, hein, on les revoit chaque année, c'est que notre impôt est redistributif. Nous savons que certains économistes comme Piketty, etc., nous disent chaque année qu'il faut le rendre plus redistributif, etc. Vous avez donné les chiffres pour ceux qui gagnent plus de 2 740 euros, et les chiffres pour ceux qui gagnent, qui sont parmi les 1% les plus riches, nous avons un impôt qui est redistributif, n'est-ce pas ?
On entend souvent l'inverse, et je suis d'accord avec
c'est
vous,
ça.
Il faut rappeler
et le
qu'il
malheur,
est progressif.
C'est qu'il y a même des députés qui disent « Ah, mais il faudrait, il n'y a pas assez d'impôts sur les riches », ce qui n'est pas du tout vrai en France. D'ailleurs, la redistribution est très forte, n'est-ce pas ? N'oublions pas qu'entre le premier décile et le dernier décile de la distribution des revenus, vous passez de revenus qui sont avant impôt, avant prestation sociale de 1 à 10, après impôt, après prestation sociale et redistribution, vous n'êtes plus de 1 à 10, c'est-à-dire un revenu qui serait 10 fois plus élevé pour le dernier décile le plus élevé, mais un revenu qui est simplement 2,5 fois plus élevé, c'est 2,3 fois plus élevé.
On arrive à ce résultat, je précise, Philippe Trénard, en incluant la redistribution monétaire plus l'apport des services publics, logement, santé, école.
C'est logement, santé, école, mais pas les routes, enfin on ne tient pas compte des routes, etc.
Mais ça veut dire qu'effectivement, bon, on a un système de redistribution qui est très très efficace.
Et qui est l'un des plus redistributifs au monde.
Voilà, c'est une petite leçon à ceux qui considèrent que la France est ultra-libérale et qui est un pays d'inégalité.
Oui, non. Et qui aurait un recul. Bon. On entend même des idées que selon lesquelles on serait en train de déconstruire l'état providence, ce qui est absolument faux.
Philippe, franchement, je me demande s'il faut être uniquement sur le terrain intellectuel quand on imagine un rapport entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet ? Bon, qu'est-ce que vous inspire la photo de la Direction Générale des Finances Publiques ? Allez, Erwan.
Non, mais comme le dit Philippe, rien de nouveau sous le soleil.
Non, rien de nouveau sous le soleil.
Mais ce qui est important, c'est intéressant, c'est que c'est le l'impôt que les Français, bon, moins maintenant avec le prélèvement à la source, mais à une époque, c'était l'impôt que les Français sentaient le plus dans leur chair, parce que c'est celui pour lequel il fallait faire un chèque à la fin de l'année.
Quand on parle des impôts, tout le monde pense impôt sur le revenu.
Oui, mais quand on regarde les prélèvements obligatoires, l'impôt sur le revenu, il est à la 5e ou 6e place, je crois, des recettes. Quoi.
Donc, à peu près, oui. 4e peut-être.
Il y a énormément.
CSG, TVA devant.
Après, vous avez toutes les cotisations, hein, enfin, le prélèvement
obligatoire. Ah oui, bien sûr. Puis,
les cotisations sur les retraites, par exemple, chacun paye beaucoup plus en cotisation retraite qu'en impôt sur le revenu. Mais j'ouvre pas le débat, Nicolas, promis. Mais on est d'accord, c'est un impôt effectivement qui a une assiette très petite et un taux de prêt très élevé. Il serait peut-être temps de pas le supprimer, mais de le fusionner dans autre chose. Mais ça va avec la revue globale de la fiscalité française qu'on doit avoir depuis des années.
Christian Pouillot, oui.
Et si on parlait des impôts d'une manière générale, quoi,
on parle d'une manière générale.
Un peu ça le sujet aussi, quoi. On sait très bien le poids de l'État par rapport au PIB qui est colossal par rapport aux autres, enfin colossal, en tout cas largement supérieur à la moyenne européenne, etc. C'est ça qu'il faut traiter, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça le point principal, parce qu'effectivement, les derniers déciles, alors, je sais pas, faut effectivement pleurer sur ces personnes-là, mais je veux dire, il y a un poids de l'impôt qui est colossal entre l'IRPP, les taxes foncières, enfin, il y a tout un tas de choses qui pèsent vraiment et qui, au final, sont négatives pour la dynamique de la France, la productivité, attirer des talents, enfin, tout ce que vous voudrez. Voilà.
C'est le sujet, parce que la définition du bon impôt, elle a été établie par des comités d'économistes. Et en fait, quand on a un impôt qui ne coche pas les cases du bon impôt, il y a peut-être des réflexions à avoir.
Bah, ouais, je pense que chaque
comme disait Erwan, il est très mal vécu par les gens, c'est l'impôt un peu psychodramatique.
Ouais, alors c'est vrai que depuis qu'il y a le pass, c'est un peu une odeur, un couleur et son saveur.
Ça a été d'une habilité qui a baissé,
c'est clair. Après, on le fait peut-être pas tous régulièrement, mais moi j'avoue, je le fais de temps en temps. Quand on somme tous les impôts qu'on fait et qu'on paye, ça fait mal.
Ah, oui. Alors, ce qu'il faut. On marque une pause, Philippe Trénard, vous réagirez si vous voulez dans un instant sur cette photographie actualisée de l'impôt sur le revenu. Rien de neuf sous le soleil, c'est vrai, mais d'ailleurs, rien de neuf sur les réflexions par rapport à cet impôt. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Christian Poyou, PDG de Micropole, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg, qui a coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Philippe Trénard, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. On se retrouvera début juillet, du 5 au 7 à Aix-en-Provence, pour les 24e Absolument. Rencontres économiques. Des réactions, évidemment, que l'IR est un mauvais impôt. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant de cadres de haut niveau qui vont à l'étranger et ne rentrent pas, m'écrit Tony Truon, c'est son nom de... Suzy Zozo, la réforme de l'assurance chômage est indispensable, on ne travaille pas assez. Voilà, tout le monde connaît quelqu'un qui profite du système et vit de l'assistanat. Il y en a d'autres qui pensent pas du tout ça. Hein. Le chômage est une assurance à laquelle on cotise, m'écrit Guillaume, mais qui est à l'équilibre, retirer des droits sans baisser les cotisations, ça s'appelle un impôt. Et Nordine trouve qu'on est tous du même avis, que c'est pas drôle. Et lui, pour lui, la réforme des allocations chômage, c'est dogmatique, m'écrit-il. Bon, vous voulez dire encore un mot sur l'impôt sur le revenu?
Oui, je crois qu'il faut dire la baisse du prélèvement sur les dividendes.
Le prélèvement forfaitaire unique de 2017.
Voilà, le prélèvement forfaitaire unique qui vient s'additionner quand même à l'impôt sur les sociétés, n'oublions pas. Hein. Et à cet intérêt-là, c'est qu'il a permis d'avoir plus de capital en francs. Or, c'est ce dont nous manquons absolument. D'ailleurs, le Trésor et la Banque de France sont en train de réfléchir à relancer le marché unique des capitaux, n'est-ce pas ? Parce que, tout simplement, nous manquons de capitaux et nous manquons de capitaux pour, n'est-ce pas, rentrer dans la compétition sur les technologies nouvelles pour faire face au changement climatique, n'est-ce pas ? Et éventuellement, peut-être aussi, pour assurer notre défense.
Le prélèvement forfaitaire unique à 30%, donc qui reste quand même supérieur à la moyenne de ce qui est pratiqué dans les autres pays, mais en France, c'est quand même rapproché de quelque chose d'acceptable par rapport à ce que nous
pratiquons. Avec des effets au total positifs.
C'est sûr que taxer le capital comme le travail sous François Hollande était une drôle de décision politique quand même. Il y a un moment, il faut voir si la fiscalité a des effets positifs ou négatifs. Parce que la fiscalité peut avoir à l'arrivée des effets négatifs.
Et si vous savez, les études économiques montrent quand même qu'on est près de ce qu'on appelle le point de l'affaire, c'est-à-dire où la réaction de l'activité à la hausse à une hausse de la fiscalité est telle qu'au total, votre hausse des taux n'apporte pas vraiment de recettes.
Les, les, les autos.
Et c'est la France.
Oui, c'est les autos, tu les totaux.
Et la France est l'un des rares pays hein, qui est dans ce cas.
Il y a des économistes qui contestent le fait que la courbe de l'affaire soit une réalité.
En fait. Ben, c'est empirique, la question. Il n'y a pas de théorie dedans. Là, vous avez une très très bonne empirique qui a été faite par le Luxembourg Institute et qui est vraiment assez convaincante.
Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on a connu la rigueur fiscale sous François Hollande, donc au début de son quinquennat, on a vu des effets quand même. On a vu des effets, notamment des professions libérales où les gars arrêtaient de bosser le vendredi parce que c'était pas la peine de
travailler. On a vu les capitaux et les problèmes de la balance des capitaux.
Vous vouliez dire un mot, Erwan Tison, de l'absentéisme. On en a un peu parlé dans cette émission. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène. On a des niveaux d'absentisme qu'on n'avait jamais observés par le passé. Alors, tout le monde essaie de trouver l'explication. Je trouve que c'est un peu court. Ah ben oui, il y a eu Covid, donc notre relation au travail a changé. C'est un peu ce qu'on entend régulièrement comme argument pour nous expliquer pourquoi l'absentéisme a connu des sommets et continue à connaître des sommets.
Oui, c'est un sujet qui est pas récent. Laurent Capelletti, professeur au CNAM, avait publié une étude à l'Institut Sapiens en septembre 2019, justement, sur les causes et les raisons de l'absentéisme.
En 2019. Donc avant Covid.
Avant le Covid. Ainsi que sur le coût. Hein, il avait estimé avec son collègue Henri Saval que ça coûtait 100 milliards d'euros par an à l'économie française. Je pense que c'est un phénomène de long terme, un phénomène vraiment qui profond dans la société française, cet absentéisme-là. Je suis pas sûr que les Français soient devenus des fainéants.
Non, il y a des, on voit pas pourquoi.
Il y a de l'optimisation, effectivement. Il y en a certains qui ont trouvé le bon médecin traitant parce qu'on se refile le.
Mais c'est pas nouveau, ça.
Non, bien sûr que c'est pas nouveau, mais je pense que
c'est Guillaume Richard nous racontait comment, là où il a des quantités de salariés, il y a un médecin dans la région qui signe à peu près l'essentiel des arrêts de travail
et qui prend 20 consultations par heure et que, enfin,
c'est peut-être un peu français quand même, hein, je veux dire, ce genre de choses.
Oui, non, mais tout ça existe. Mais pourquoi soudainement un phénomène d'emballement?
Je pense que c'est notre rapport aussi au travail et surtout au management qui est en train de changer. L'IFOP a publié il n'y a pas très longtemps une étude assez éclairante sur le rapport qu'ont les Français, les salariés, à leur emploi. La question était la suivante, je me permets de citer les chiffres.
Allez-y.
Est-ce que vous avez le sentiment que votre travail est reconnu à votre juste valeur par votre entreprise et votre hiérarchie? Les Américains répondent oui à 45%, les Allemands oui à 31%, les Britanniques oui à 19% et les Français oui à 9%. Il y a un paradoxe qui est assez intéressant. L'OCDE publie chaque année justement des études liées à la vision du travail. Les Français sont parmi tous les pays de l'OCDE les salariés qui mettent la valeur travail la plus élevée parmi comme valeur cardinale, comme valeur de société. Par contre, ce sont les premiers également à, dès qu'on leur dit est-ce que vous avez la possibilité de quitter votre travail plus tôt, que ce soit à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin de votre carrière, sont les premiers à dire oui. Donc c'est-à-dire que non, on voit l'importance du travail, mais on se sent de plus en plus mal dans son travail. Pourquoi? Et là, je pense qu'on va revenir sur le sujet de la formation. Il y a aujourd'hui un vrai problème de management en France. Je cible pas les managers, je dis de management à toutes les strates. On a les pires managers en Europe. Ça a été à la fois sourcé dans la littérature académique, mais aussi de manière empirique. Vous avez en plus toute une branche académique qui est en train d'émerger là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne forme pas aujourd'hui des managers. Un bon technicien devient automatiquement manager et n'a pas les clés pour faire ça. Or, je parle sous contrôle de Christian, manager, ça s'apprend. Manager, c'est un vrai métier. Manager, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a été bon dans son.
Et on est particulier par rapport à ce.
On est très mauvais. On est très mauvais, et c'est ça qui explique l'absentéisme. L'absentéisme, c'est quoi? C'est pas que le mal-être au travail. L'absentéisme, c'est mal anticiper un congé maternité et ne pas le remplacer durant les 10 semaines de congés qui sont associés. L'absentéisme, c'est mettre une personne qui a des qualifications pour tel et tel poste pour des qualifications X sur un poste qui demande des qualifications Y. C'est-à-dire qu'en fait, l'absentéisme, comme on le mesure en économie, c'est de se dire tout que l'entreprise va perdre en création de valeur parce que la personne est soit pas là, soit absente, soit au mauvais poste. Et en fait, on voit que ce phénomène ne cesse de s'amplifier, tout simplement parce qu'on n'arrive pas, à comprendre, parce qu'on n'a pas justement bien formé nos managers, que le rapport au travail a changé, qu'il y a une demande d'autonomie, qui est de plus en plus grande chez les salariés, et qu'il y a justement un besoin en qualification beaucoup plus accru pour pouvoir mettre en face les personnes, qu'elles se sentent valorisées par rapport justement à ce qu'elles sont capables de faire. Et le cas échéant, de pouvoir leur apporter le supplément de formation pour leur permettre de réaliser une fonction qui ne cesse d'augmenter dont l'exigence ne cesse d'augmenter en termes de technicité. Dernier chiffre par rapport à ça, les entrées en formation ont baissé de 20% depuis 2018 par rapport aux actifs, pour les actifs. Et donc du coup, ça accentue ce mal-être-là, parce que la première cause du mal-être et de la non-reconnaissance au travail, c'est de dire « je ne suis pas suffisamment qualifié pour faire ce que je suis en train de faire ». La plupart du temps, le manager se dit « si jamais j'envoie ma personne en formation, je vais la perdre pendant un jour, deux jours, trois jours, et puis en plus je vais la former, si jamais après elle part, je vais du coup avoir formé quelqu'un quelqu'un dont mon concurrent va profiter des nouvelles compétences. Et ainsi, donc je préfère qu'elle soit mauvaise sur son poste plutôt qu'elle la forme et qu'elle soit bonne derrière. Mmh. C'est un vrai problème qui, à la fois, nuit à la cohésion sociale, nuit au bien-être au travail, et qui, du coup, à mon avis, si on ne le résout pas maintenant, ne va aller qu'en s'accentuant. Et je rappelle la facture, 100 milliards en 2019, qui ne cesse de s'accentuer, qui progresse d'environ 3% par an.
Christian Poyot, par rapport à ce qui a été dit sur...
On pourrait faire des heures sur le point.
Est-ce qu'on est particulièrement mauvais en management, en fait?
Je vais essayer de répondre, essayer. Alors moi, je n'ai pas regardé l'étude, mais j'avoue que j'aimerais bien m'y pencher un peu, parce qu'après, c'est vrai qu'il faut l'analyser entre l'école bleue et l'école blanche. Alors, une expression un peu old school, j'en conviens. Parce que entre les gens qui peuvent être en télétravail et tous ceux qui ne peuvent pas l'être, il y a déjà quand même une grande différence. Après, il y a entre les cadres et les non-cadres, etc. Bon. Maintenant, si je prends mon cas entre guillemets de Micropole, nous on est des cadres à 95%, et puis il y a beaucoup de télétravail, etc. Il y a quand même effectivement un absentéisme qui a progressé d'une manière générale. Par rapport au pré-Covid, si j'ose dire. Bon, ça c'est la première remarque. Le sujet du management. En fait, le management, je peux pas dire que ça s'apprenne réellement, parce que faire du management, c'est de la gestion de enfin, je n'aime pas le mot gestion, mais c'est coordonner des actions d'être humain. Donc, par nature, l'être humain est très complexe. Donc, il faut pas faire petit un, je fais ça, petit. Il y a des choses à éviter. Ça, c'est évident.
Il y a quand même sûrement, oui, des routines à connaître.
On peut former plus. Où je vous rejoins, c'est que, effectivement, dans les écoles, y compris les grandes écoles, quelles qu'elles soient, l'école de commerce ou l'école d'ingénieur, cette notion de management, elle n'est pas prise en compte, si j'ose dire. On apprend les théories, alors économiques ou physiques, mathématiques, si vous voulez, etc. Mais cette notion de management n'est pas prise en compte. Ce qui fait que très souvent, vous avez des gens qui sont très brillants sur leur domaine précis, mais quand vous leur demandez de manager 10, 20, 50, 100, 500 ou plus personnes, ils ne savent pas le faire, entre guillemets.
C'est vrai que ça existe.
Donc ça, c'est un problème. Est-ce que c'est foncièrement différent dans les autres pays? C'est là où je diverge peut-être par rapport à ça. Je ne sais pas. Je vais être tout à fait honnête sur ça. Il y a quand même un rapport au travail qui est quand même un tout petit peu différent. Puis après, le gros sujet, moi, j'aimerais bien qu'on analyse entre secteur public et secteur privé, globalement. Il y a encore des gens dans le secteur public qui bossent même pas 35 heures et qui bossent 32 heures et qu'on leur dit qu'il faut bosser à 35 heures. Ils veulent pas le faire. Et l'absentéisme dans le secteur public, je crois, sauf erreur, qu'il a augmenté de manière très, très importante. Largement plus que dans le privé, voilà. Donc on débouche quand même là, en dehors des sujets qu'on a pu évoquer, vrais, de management, de changement de rapport au travail ou des choses comme ça, et puis entre les gens qui peuvent être en télétravail ou non, sur une culture et une vision du travail qui est différente selon les secteurs, et le secteur public, sans vouloir le stigmatiser, parce qu'il y a plein de gens qui sont remarquables et qui font leur boulot. Oui. Enfin, il y a un rapport au travail qui est différent par rapport au secteur privé. Donc c'est pour un peu pas diverger par rapport à ce qui a été dit, mais en tout cas le nuancer ou faire une analyse peut-être pas globale, mais plus précise par secteur et domaine d'activité.
Si vous me permettez, c'est juste un problème de management qui est encore pire dans la fonction publique que dans le secteur privé. C'est le mal-être au travail, pour le coup, dans les catégories C qu'on pressurise et qu'on demande, à qui on ne donne aucune perspective d'avenir et qui sont obligés de gonfler leurs heures supplémentaires justement pour obtenir 100 euros en plus parce que justement elles n'ont pas la possibilité de grimper dans l'échelle qu'on leur donne, aucune responsabilité en plus, c'est catastrophique.
Oui, mais parce qu'il y a aussi une progression uniquement à l'ancienneté.
Ah, mais bien sûr.
Vous prenez sur l'ancienneté, donc il faut prendre un poste.
Ancienneté et diplôme.
Il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience professionnelle, mais qui ne sont pas capables de manager. Ce n'est pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire telle chose, mais ils ne sont pas capables de manager.
On verra jusqu'où ira la réforme de la fonction publique que prépare Stanislas Guérini. Les différents éléments qui remontent donnent l'impression que c'est une réforme qui se veut très audacieuse par rapport à ce qui a pu être fait par le passé. Mais enfin, on verra ce qu'il en
restera. Déjà, la rémunération au mérite, c'est quand même un point.
Il y a la rémunération au mérite. Évident, mais justement, il y aura probablement des décisions sur les jours de carence. Et il est probablement aussi question de supprimer les catégories A, B et C de la fonction publique qui sont un peu antédiluviennes quand même aujourd'hui. Il y a un auditeur qui me dit on travaille peut-être moins parce qu'on n'est pas assez payé.
On travaille d'abord, on prouve qu'on génère de la valeur et après on vous augmente. Ça marche dans le privé.
En fait, je pense que on a surtout un problème de salaire net.
Oui, bien sûr.
Problème de salaire.
Raison sur ce point de vue-là, mais ça, on retombe sur le sujet des impôts et le poids de l'État.
Tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail, comme disait Yvon Gattaz. Philippe Trénard, là-dessus.
Moi, j'ai quand même trois remarques, effectivement, pour nuancer, pas pour contrer ce que vous avez dit, mais pour le nuancer. Tout d'abord, le secteur public, effectivement, est un point où se localise beaucoup l'absentéisme. Or, nous sommes dans un secteur où les gens sont les plus formés. Deuxièmement, ce ne sont pas les secteurs où ils sont les moins bien payés. Ces fameuses catégories C, B sont beaucoup mieux payées dans le secteur public que dans le secteur privé. privé, ce qui est beaucoup moins...
Beaucoup mieux.
Ah, beaucoup mieux. Ah oui,
non, non, ça,
toutes les enquêtes le montrent. Et surtout, alors, les catégories C, le secrétariat, il y a, c'est quand même le jour et la nuit. Inversement, ceux qui sont beaucoup moins payés, ce sont les cadres. Alors, peut-être est-ce une raison pour laquelle ils n'encadrent pas bien. Voilà. Je crois qu'il y a un deuxième quand même problème. La formation, oui, mais quand même, en moyenne, la France est le pays où on rentre le plus tard sur le marché du travail et on a les plus longues études. Donc là, on se retourne, est-ce qu'on a la formation qu'il faut ?
Parce mais pas tout le monde de la vie, c'est ça le problème, c'est qu'on fige, on fige un destin à 20, 25 ans.
Voilà, mais quand même, on a et troisièmement, moi, ce qu'on observe, c'est que les grandes boîtes internationales qui ont pour partie des salariés français se trouvent confrontés au même problème alors que le management est international et a probablement été mieux formé qu'en France. Je crois que c'est vrai, c'est la remarque que vous faites qui est vraie. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas que cette question-là, qu'il y a d'autres pistes qu'il faut explorer. Alors je ne suis pas un spécialiste de la question et je me garderai bien d'avancer sur ce terrain délicat, mais il y a un vrai problème et je pense que la question de la formation est... formation de l'encadrement à encadrer et formation des encadrés n'épuise pas de loin le sujet. Un facteur fondamental.
Avec un point derrière, une incidence économique qui est celle de la productivité. On a publié il n'y a pas longtemps une étude sur nous on a identifié 5 facteurs à la baisse de la productivité en France. Celui sur le management, on l'avait identifié comme étant à peu près responsable de 10% de la baisse de la productivité. Moi, je pense qu'on va peut-être refaire cette étude-là bientôt, mais je pense qu'en fait, le facteur est peut-être plus important parce que le problème de il y a la question du salaire. Quand je dis management, c'est tout. Hein, c'est la progression de carrière, la rémunération, etc., qui ne dépend pas toujours que du manager, mais quand on regarde, on fait juste une corrélation entre l'endroit où la personne a le salaire net les pays où le salaire net est le plus élevé, les pays où justement il y a par rapport à ces données qualitatives un bien-être au travail supérieur à chez nous et la productivité, on voit que la productivité est supérieure dans ces pays-là. Donc il y a peut-être aussi une incitation peut-être à aller chercher un peu plus d'efficacité dans son travail dans ces raisons-là.
Mais il faudra quand même bien prendre la mesure du fait que après le Covid, au fond, les Français ont réagi un peu différemment des Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons travaillaient plus à partir du domicile, les Français, au fond, un peu moins, mais il y a eu aussi plus d'absentéisme. Et il faut le relier, naturellement, comme vous le dites, à la question de la productivité, parce que la France est l'un des rares pays, c'est que parmi les 4 seuls pays de l'OCDE,
où
la productivité
spéciale
baisse depuis 2015, et ça s'est accéléré avec le Covid.
Comme dit Christian Poyot, l'être humain est une matière complexe, et donc ce sujet de l'absentéisme, c'est complexe à analyser et complexe à régler.
Absolument.
Je voudrais vous citer, pas forcément pour vous faire réagir, mais quand on remet des églises au milieu du village, je trouve ça pas totalement inutile. Donc il y a cette commission pilotée par Philippe Juvin pour les Républicains pour essayer de comprendre comment la dette a pu exploser. Et elle a entendu hier le président du conseil d'administration de la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Il rappelle des choses évidentes mais qui ne sont pas rappelées si souvent. Il dit pourquoi est-ce qu'on a fait un budget sécu et un budget État ? Parce que c'est pas la même chose. Normalement, le système de protection sociale, dit-il, il avait vocation à ne pas accumuler de la dette, contrairement à l'État. Il s'appelle Jean-Louis Rey, il rappelle que les dépenses de sécurité sociale ne sont pas des dépenses d'investissement, que ce sont des dépenses courantes et que ces dépenses courantes ne doivent pas être financées par l'emprunt. C'est juste pour le rappeler. Et depuis 1996, date de sa création, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, donc, porte une dette. Et cette dette est une anomalie. Et l'extinction de la CADES a été plusieurs fois repoussée. La première date d'extinction de la CADES, je crois que c'était 2009. Désormais, sa disparition, si tout va bien, est prévue en 2033. Pas mal de rappeler qu'on a un système social qui normalement devrait être à l'équilibre. Ça vous inspire une réaction, Philippe ?
Oui, non, le directeur de la CADES a tout à fait raison.
Mais c'est bien de rappeler des choses comme ça.
C'est absolument pas normal. La politique sociale, elle vise à faire participer les personnes qui n'en ont pas les moyens parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils ont subi un certain nombre d'événements négatifs, à les faire participer à la richesse sociale. C'est pas à anticiper une richesse qui n'a pas été créée et qui ne sera peut-être jamais créée, surtout si la productivité baisse. Donc ce n'est pas normal que l'on soit endetté au titre de la dette sociale. Deuxième point, c'est que la dette de la CADES, ça sous-estime largement aussi la dette. Il y a toute cette dette, en fait, que nous ne voyons pas, qui est celle liée au régime de retraite des fonctionnaires, n'est-ce pas ? Et qui se retrouve, en fait, dans la dette de l'État, qui est appelée dette de l'État et qui en fait une dette sociale. Dette sociale qui est liée, au fond, qui accroît le coût du fonctionnaire dans des proportions incroyables, puisqu'on l'accroît, c'est quand même implicitement de ce fait de 70% à 120% selon qu'on en est civil ou militaire. Donc des chiffres absolument aberrants.
Là, vous parlez du rôle de l'État, l'État employeur,
l'État employeur de fonctionnaires
qui surcotise de manière absolument astronomique pour la retraite.
Et donc il y a une, et comme c'est financé par la dette de l'État, la dette sociale est encore plus importante. Et là, on est un petit peu, c'est un petit peu vertigineux, quoi. Il y a un vrai problème. Voilà. Ça reste le vrai problème. Ouais, et là, c'est dommage. Les gouvernements actuels ne se sont pas attaqués.
Cette surcotisation de l'État employeur qui est astronomique aux alentours de 70% quand normalement
pour les fonctionnaires civils et 120% pour les militaires.
Quand un employeur normal du privé cotise 17% ou 16,5%, c'est une espèce de face cachée de l'iceberg de la dette sociale qui est absolument colossale. Le corps le sait mais ne veut pas en tenir compte.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que on va pas refaire le débat sur les retraites d'il y a quelques années et compagnie, mais d'ailleurs c'est amusant de voir comment le corps a quand même évolué. Il a changé de directeur.
C'est Gilbert Sept
qui amène, je pense, un peu plus de rationalité. Et encore une fois, pas de vision dogmatique ou surtout politique, quoi que ce soit, mais de rationalité. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on regardera les choses en face ? C'est de ce point de vue-là complètement hallucinant, on est bien d'accord. Mais c'est, les montagnes d'émotions qui ont été faites parce qu'on est passé à 64 ans, alors qu'on sait qu'il va falloir passer à plus dans un laps de temps relativement réduit. Donc, on retombe sur un sujet qui est une évidence. Enfin, c'est en face de nous. C'est crucial. Et bon, voilà, une bonne partie de la classe politique refuse de voir le sujet et de le traiter face aux Français.
Il y a Vivatech en ce moment, Christian Poyot. Donc, à cette occasion, Emmanuel Macron a pris la parole depuis l'Élysée. Il a annoncé un petit investissement public pour plus que doubler le nombre de personnes formées à l'intelligence artificielle. Mais à cette occasion, il a dit « Je veux une France championne de l'intelligence artificielle ». Quand je regarde l'histoire, la matière grise française, elle est ultra présente dans les grandes évolutions technologiques. C'est un Français qui crée le disque dur, c'est un Français qui invente le protocole Cyclade qui va devenir TCP/IP, et à la fin c'est Internet. C'est un Français qui invente l'iPhone de Steve Jobs entre 2000 et 2007.
Et carte à puce.
Et iOS qui va fonctionner avec l'iPhone, la carte à puce. On se dit, mais oui, effectivement, on a toutes les chances de pouvoir être un champion de l'IA. Et pourtant, chaque fois, on se désespère quand on voit que finalement, les vraies réussites business opérationnelles sont ailleurs.
Non, mais aujourd'hui, on est quand même, toutes choses égales par ailleurs, un champion de l'IA, si j'ose dire. Quand on regarde au niveau européen, les études prouvent que, alors, il y a une compétition, il y a photo arrivée avec Londres, mais la dynamique du tissu sur l'IA. Alors, quand on dit IA, il faut parler de manière générale. On parle tout en ce moment de Gen AI, mais il n'y a pas que la Gen AI. L'IA, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, voilà. Et quand on regarde, encore une fois, la position de la France sur ce sujet-là, on est bien placé. Alors, si on se compare aux États-Unis qui sont un marché unique, qui ont une dimension de capitalistique qui est 10 fois supérieure à celle de la France, l'âge de l'Europe, c'est beaucoup plus complexe, si j'ose dire. Mais faut pas rêver, on ne peut pas dire qu'on va devenir plus fort que les Américains sur la partie IA. Voilà. Maintenant, je pense que dans la situation dans laquelle est l'écosystème français, on est quand même très bien placé. Voilà, on peut certainement faire encore mieux. Alors, le point fort, on le connaît, c'est qu'on a effectivement des écoles d'ingénieurs très brillantes. Il y a un tissu entrepreneurial. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de l'absentéisme, mais n'oublions pas que la France est un pays à la base d'entrepreneurs. Enfin, je crois que c'était avant 14, le nombre d'entrepreneurs était déjà très largement supérieur. Enfin,
c'est un mot français que les Américains
ont employé. Oui, c'est un mot français, selon l'expression de Bush. Qu'est-ce que veut dire le mot entrepreneur, etc. Donc il y a un dynamisme qui est très fort. Et je vais être à Vivatech juste à la sortie de cette émission. La French Tech est une réussite, etc. Donc il ne faut pas non plus se lamenter par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque le fait de garder les talents. Ça, c'est... Enfin, qu'est-ce qui nous manque ? Plutôt, sur quoi on peut agir ? Parce que l'écosystème américain, il y a 400 millions de personnes. On ne va pas le traiter du jour au lendemain. Alors, il y a un sujet qui est à nouveau bassement fiscal. C'est que le coût des salaires, il est pas. Enfin, les charges patronales ne sont pas plafonnées, d'accord ? Et encore une fois, si on compare l'Allemagne, on peut avoir 5 ingénieurs en Allemagne, alors qu'en France, on n'en aura que 4 ou 3,8 parce que le coût du travail est supérieur. Donc, c'est tout bête, mais c'est une capacité pour ne pas enfin, ça nous bloque dans
C'est pas tout bête. Je rappelle un chiffre qui a été calculé par l'IFRAP. Si on avait le même système de plafonnement des cotisations sur les salaires qu'en Allemagne, la partie au-dessus de 3,5 SMIC en France paierait 24 milliards de cotisations en moins.
Oui, mais
24 milliards par an.
C'est colossal. Parce que très souvent, on entend les cotisations sociales en Allemagne sont les mêmes. Oui, sauf qu'elles sont plafonnées au-delà d'un certain montant. Pour que nos auditeurs comprennent mieux de manière générale. Donc, alors, à nouveau, on va dire, bah oui, c'est un patron, il parle de fiscalité, etc. Mais c'est une réalité.
Non,
donc,
mais c'est une réalité.
Vous implantez le déplafonnement est une réalité. Implantez un centre de recherche, vous l'implantez en Allemagne, vous allez avoir X% d'ingénieurs en plus que ce que vous avez en France de manière générale. Bon. Et puis après, il y a le sujet des capitaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui démarrent. Maintenant, à un moment donné, bah, il faut de l'argent, il faut lever des fonds, il faut faire des séries A, B, C, enfin, etc., etc. Bon, là, il n'y a pas suffisamment de capacité de force de frappe en France. C'est pour ça qu'il faut raisonner au point de vue européen. Et là, on retombe sur un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, enfin, le marché des capitaux ou peut-être des concentrations de grands acteurs financiers. Donc là, il faut agir, mais pas uniquement au niveau français. Bien évidemment, il faut qu'on agisse au niveau européen.
Donc il faut améliorer l'accès au financement et l'accès aux compétences.
Voilà. Et après, il y a un autre sujet, si on veut à nouveau parler de fiscalité, qui est le sujet des retraites, où en France, on fait que de la retraite en répartition et pas en capitalisation. Donc on perd une partie de financement qui, aux États-Unis sert sur ce genre de choses.
C'est l'arme de guerre, le fonds de pension. C'est l'arme de guerre pour avoir les montants correspondants aux ambitions.
Par habitude, je suis toujours optimiste et il faut l'aide, de manière générale. Je pense que la France a une place qui est quand même significative par rapport, encore une fois, aux contraintes qu'elle subit aujourd'hui. Voilà. Et Vivatech est une très grande réussite. C'est le salon européen. Hein, j'ai des personnes de Micropole qui étaient déjà hier. Il y a de plus en plus de sociétés étrangères qui sont présentes. Donc ça, c'est une réussite.
Vivatech est à la tech, ce que le Festival de Cannes est au cinéma, et c'est vraiment le CES à la française.
On est bien d'accord.
D'ailleurs, je ne sais plus quand c'est né, mais
c'était avant le Covid, ça fait bien plus de 10 ans.
Ça va faire une bonne dizaine d'années, oui. Ouais. C'est né dans une discrétion parfaite, et puis c'est devenu effectivement un rendez-vous de référence. Oui, Philippe Trénard, on a 2 minutes 15.
Oui, 2 minutes 15. Je vais dans le sens, le point de vue d'un entrepreneur, le point de vue d'un économiste, c'est qu'effectivement, on a un problème, on a la capacité, mais la capacité reste insuffisamment en France. Les cerveaux de haut niveau partent à l'étranger et les start-up, quand elles atteignent un certain niveau, ben elles sont rattachées par des Californiennes. Et je crois que là, vous avez bien
Philippe,
dit...
Philippe, ça fait 15 ans qu'on le dit.
Oui, il faut.
Le early stage, tout va bien, la vallée de la mort et c'est fini.
Il faut être beaucoup plus incitatif au niveau du capital pour qu'il reste en France, au niveau des compétences pour qu'elle reste en France. Nous ne sommes pas capables de faire venir un ingénieur de haut niveau de Suisse en France sans avoir à augmenter le coût de ce salarié, de 30 à 40%.
C'est l'histoire du plafonnement des cotisations.
Donc ça ne va pas. Voilà. Et je crois, pour le capital, c'est ce qu'a dit Christian, et je pense que le Trésor a tout à fait raison, la Banque de France a raison, le rapport Noyer est excellent. Il faut le marché des capitaux.
Le marché des capitaux
va nous aider, et un petit peu aider, justement, et apporter un petit peu sa contribution. Mais en même temps, aide-toi, le ciel t'aidera, il faut de l'incitation française.
On a mis combien de temps à faire l'union bancaire? On a mis et c'est pas tout à fait fini. Voilà, et donc l'union des marchés de capitaux, bon, effectivement.
Oui, mais c'est, on en a besoin.
Évidemment. Oui, on en a besoin. Enrico Letta le dit. Je pense que Mario Draghi au mois de juin, quand il va remettre effectivement.
Mais c'est pour ça que nous ne couperons pas au débat sur l'incitation si nous voulons que la tech vienne en France.
Après, Paul McCarthy le disait déjà dans les années 60, il nous faut justement une.
Oui, oui.
Absolument.
Juste la chaîne de la valeur de la tech et notamment de l'IA, elle est très large. Hein, ça part des puces. On a vu Nvidia là, qui publie des résultats records. Il y a tout ce qui est effectivement les moteurs LLM ou enfin l'IA de manière générale, c'est GenAI. Et après, il y a la data. Et la data sur le sujet français / européen, on a une place à prendre. Donc, faut pas raisonner sur un sujet qui est peut-être le plus emblématique, mais il faut raisonner sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. On a plein de choses à faire.
On a quand même un problème avec les données personnelles. La limitation des données personnelles fait que les technologies de contrôle des derniers personnels, de la non-fuite, etc., puisqu'on ne peut pas les utiliser en France, en Europe, elles ne sont plus en Europe, elles sont aux États-Unis. Donc on a un vrai problème, trop interdire, c'est aussi tuer.
Merci. On est quand même revenu deux fois aux retraites, Nicolas, dans cette émission, sans parler des retraites.
Oui.
Des fonds de pension absents.
Oui.
Mais on n'a pas parlé des retraites.
On a épargné les retraités et la question intergénérationnelle, mais on en a déjà parlé. Bon. Tous les jours, quand même, parce que bon, je ne vais pas martyriser.
Quand on ne veut pas en parler, on arrive.
Oui.
Preuve qu'il y a un sujet économique là-dessus.
Et vous avez vu, je ne vous ai pas interrogé sur la désindexation des pensions de retraite en 2025. Je me suis dit, si je lance et Juan là-dessus, on est mort. Bon, c'était Christian Poyot, c'était Juan Tizon, Philippe Trénard. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.